15 ans, je voulais juste en avoir 16. À 16 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête.
Je m'appelle Alexis, je suis journaliste et j'ai 29 ans. Aujourd'hui, un peu comme Orelsan, ben j'aimerais bien que le temps s'arrête. Avant mes 29, comme tout le monde, j'en ai eu 27, puis 28. Et c'est environ à ce moment-là que j'ai réalisé que je ne grandissais plus, mais que je vieillissais. J'ai presque 30 ans et je compte littéralement les mois sur mes doigts en me disant « Tranquille, il me reste un peu de temps avant les 30 ». Mais la vérité, c'est que le temps passe très vite. Et ce n'est pas une légende, on m'avait prévenu. Tu verras, plus tu avanceras dans ta vie, plus tu auras l'impression que les années filent. Seulement 30 ans, un podcast produit par Radio Campus Besançon et réalisé par Alexis Le Corollaire. Épisode 1, la crise. Du temps qui passe, de la vieillesse et de la trentaine, j'en ai parlé avec ma petite sœur de 13 ans. Et autant vous dire qu'elle ne m'a pas fait un portrait très élogieux d'une personne de 30 ans.
C'est une personne assez grande, avec un tout petit peu de rides, mais qui est déjà un peu mature, qui a commencé à avoir un peu des cheveux blancs. Je sais pas si à cet âge-là on en a, mais pour moi c'est un peu ça. Voilà.
Commencer la réalisation de ce podcast avec ce témoignage peut être démoralisant. Mais quand j'ai entendu Nathan, l'un de mes petits frères âgé de 16 ans, ça m'a redonné un peu d'espoir.
30 ans, pour moi, ça évoque la maturité, grandir, s'occuper de plus de soi-même, des trucs comme ça, quoi.
Et en voilà une de réponses qui donne le sourire. En tout cas, il y a un mot, ou plutôt une expression qui définit ce que je traverse actuellement, et c'est la crise de la trentaine.
Non, mais enfin, je t'en prie, avoir 30 ans, c'est tout de même pas aussi grave.
Eh bien, pour moi, si, Joey. Comme il existe aussi plusieurs articles sur la question, je me suis dit que je n'étais forcément pas la seule dans ce cas. Et puis, j'ai eu aussi envie de vérifier ça par moi-même, de m'assurer que ça existe, de comprendre pourquoi, et surtout de trouver le moyen de m'en détacher. Alors, c'est un peu sous la forme de thérapie que j'entame la réalisation de ce nouveau podcast. Et lorsque j'atteindrai un peu plus la 30e année de mon existence, en passant ce qui est déjà le cas, j'espère ne plus porter le poids de l'âge sur mes épaules. J'espère au contraire vivre simplement. J'espère que je pourrai regarder mon corps changer et aimer le voir évoluer. J'espère que je pourrai vivre avec mon temps sans me soucier d'être has-been. J'espère ne plus avoir à compter les années sur mes doigts. Et pour ce podcast, j'ai rencontré des personnes comme moi qui tournent autour de la trentaine avec angoisse, comme Ambre, 33 ans.
C'est vraiment un âge que j'ai occulté de mon esprit jusqu'à ce qu'il m'arrive en pleine figure, quoi.
Ou comme David, 30 ans.
À la base, c'était censé être un âge tranquille, mais avec le passage du temps, ça devient de plus en plus stressant et un peu compliqué.
J'ai rencontré des personnes qui sont loin d'avoir 30 ans et que ça angoisse déjà, comme Rose, 22 ans.
C'est synonyme de beaucoup de responsabilités pour moi, beaucoup de un cap aussi qui se passe entre la vingtaine, où on est plutôt étudiant, on cherche encore un petit peu, et la trentaine, pour moi, c'est le moment où tu dois un peu savoir, où tu dois te stabiliser, et pour moi, c'est synonyme vraiment d'angoisse.
J'ai rencontré des personnes qui viennent de passer le cap des 30 ans et qui se sentent très bien, comme Jordan, 32 ans.
Moi, les 30 ans, en gros, c'est un âge agréable, où je suis arrivé à obtenir un peu tout ce que j'ai cherché pendant la vingtaine.
Ou comme Romain, 31 ans.
Ça m'a pas fait grand-chose, on m'en a beaucoup parlé. Quand j'arrivais à 28, 29 ans, tout le monde était là, bientôt la trentaine. Mais moi, la trentaine, ça me... Pour l'instant, en tout cas, ça ne me fait pas grand-chose.
J'ai rencontré des personnes qui ont changé de vie à 30 ans parce que plus en adéquation avec leurs ambitions. J'ai aussi rencontré des personnes pour qui l'âge n'est même pas une question et d'autres qui sont trop jeunes pour s'en soucier. Comme mon petit grand frère de 23 ans, Julien.
Bah là, actuellement, j'y pense pas du tout. J'ai pas le temps d'y penser. Dans ma vie, je peux pas trop... Je pense pas à aussi loin.
Tandis que d'autres se sont emparés de ce sujet et ont décidé d'en parler et d'aider les trentenaires anxieux à passer le cap.
Bah, c'est vrai que je connaissais la crise de la cinquantaine, on parle souvent de la crise de la quarantaine, mais je ne savais pas qu'il existait un mot, moi non plus.
Amélie Osier, créatrice du podcast « Avoir 30 ans ».
Et je me suis rendu compte dans les échanges que ce mot revenait souvent, et jusqu'à ce que je trouve des contenus et des véritables textes qui parlaient de ça et qui avaient conceptualisé en fait cette angoisse d'arriver à 30 ans et d'avoir tous ces bouleversements. Et j'ai découvert voilà, ils avaient nommé ça la crise de la trentaine. Et au final, je trouve que c'est plutôt intéressant. Je pense que c'est aussi un terme qui est apparu au moment du Covid où nos modes de vie ont été un peu chamboulés. C'était une vraie crise pour le coup de notre quotidien.
Ambre Arcangeli, coach de vie spécialisée dans la crise de la trentaine.
J'ai vu quand même qu'il y avait des comptes Instagram, des articles qui parlaient de ça sans mettre le mot crise de la trentaine. On parlait de la trentaine comme le moment quand on passe de drôle et fêtard à pas drôle et on va se coucher à 10h. Enfin, des choses comme ça, des contes que j'adore et qui me font trop rire, mais il n'y avait pas vraiment ce mot en fait. Je crois que je faisais des recherches en fait sur la crise de la quarantaine parce que je me suis dit, je crois que je faisais des recherches parce que je pensais que je faisais une sorte de crise de la quarantaine. Je me suis dit, non mais je suis trop en avance et tout. Et je pense que. Enfin, il me semble qu'en lisant un des articles, j'ai vu le mot « crise de la trentaine ». Et il y a très, très peu d'articles à ce sujet. Et c'est là que je me suis dit mais c'est ça, en fait. Et il y a plusieurs coachs aux États-Unis qui sont des coachs sur « turning 30 ». Et c'est à partir de là, en fait, que je me suis dit « mais c'est quelque chose dont on parle beaucoup aux États-Unis, dont on parle pas beaucoup en France ». Au-delà de l'angle de l'humour et de la dérision, il faut aborder le sujet parce que c'est vrai sujet de souffrance, en fait. Et c'est comme ça que j'ai réussi à mettre le mot sur la crise de la trentaine.
Mais alors, si on devait définir la crise de la trentaine, qu'est-ce qu'on en dirait ? En fait, la définition diffère selon comment on traverse cette période. La preuve avec les témoignages d'Ambre et de Jordan.
Je me suis rendu compte que j'avais passé 30 ans à 33 ans. Donc, je pense que déjà, rien que cette chose en soi est symptomatique d'une crise, d'un espèce de refoulement ou d'un déni, je ne sais pas trop. Mais oui, effectivement, beaucoup de détails auxquels on faisait pas forcément attention qui commencent à prendre de l'importance. Notre reflet, par exemple, le fait d'avoir l'air plus fatigué, les premiers cheveux blancs, alors que finalement, il y a quelques années encore, je me disais, moi je serais le genre de personne qui s'en fichera de ça, quoi. Et au final, quand ça arrive, on y accorde de l'importance. C'est aussi le temps du bilan, savoir ce qu'on... Enfin, on fait un peu le point sur ce qu'on a déjà accompli, sur ce qui nous reste à accomplir. C'est le temps du questionnement, ouais. Ouais. Et donc, qui dit temps du questionnement, dit temps de crise, parce que ça engage des changements, quoi.
Je la comprends et je la vois auprès des gens qui m'entourent, surtout qu'ils ont tous à peu près 27-28 ans et ça peut les angoisser. Moi, ça n'en était pas une. Après, c'est peut-être parce que aussi à cette époque-là, moi, je traînais avec des gens qui avaient 24-25 ans et qui ne l'avaient pas du tout en tête. Et moi, j'avais leur âge et pourtant, j'ai continué à vieillir tranquillement. Et la trentaine, non, j'étais content parce que, je sais pas, peut-être toujours été vieux, c'est ce que les copains disent, voilà.
La définition de la crise de la trentaine par Ambre Arcangeli est plus ou moins à condenser de tout ça.
C'est pas forcément à 30 ans pile, hein. C'est vraiment entre 26 ans et 25 et 35 ans. C'est de prendre conscience autour de cet âge-là qu'il y a vraiment un décalage entre là où on est, c'est-à-dire l'état de notre vie, ce qu'on fait, avec qui on est, comment on sent, là où on habite, et là où on aimerait être ou là où on pensait être à 30 ans. Parce qu'à 30 ans, dans notre société, il y a vraiment une pression d'accomplissement. Il y a des sortes de cases à 30 ans à cocher qui se font naturellement. En fait, on voit autour de nous, on voit nos amis qui se marient, on voit nos amis qui font un prêt, on voit nos amis qui commencent à avoir des postes avec des grosses responsabilités, des promotions. Et en fait, nous, ça nous donne comme une sorte de comparatif et on se dit... Ok, moi, pourquoi est-ce que je n'en suis pas là ? Et c'est là qu'on commence à sentir un décalage. Pourquoi est-ce que moi, je ne suis pas là ? Qu'est-ce que je fais ? Enfin, qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas le mériter ? On sent qu'on mérite mieux, mais on ne sait pas vraiment quoi d'autre, en fait. Et donc, c'est vrai qu'il y a on a tendance à se comparer. C'est là qu'on se sent en décalage. Et ça crée un énorme sentiment de frustration, en fait.
C'est aussi une façon de se dire, bon, j'ai pas envie de faire une crise de la quarantaine.
Amélie Osier, créatrice du podcast Avoir 30 ans.
J'ai pas envie de faire une grosse crise de la cinquantaine et de me dire que je regrette plein de choses et que j'ai pas fait les bons choix ou que j'ai toujours fait ce qu'on attendait de moi. Donc je prends conscience maintenant et je fais mes propres choix maintenant pour ne pas le regretter plus tard.
Au fil de notre discussion, Ambre Arcangeli m'a aussi expliqué qu'il existe deux types de crises, locked-in et locked-out.
Donc si on est en crise de la trentaine dite locked-in, c'est-à-dire qu'on a tout pour être heureux, on a le super job, le mari, le bébé, le chien, les VTT, machin, mais on n'est pas heureuse. On se dit, ok, j'ai tout ça, sur le papier, je devrais être heureuse. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Pourquoi est-ce que ça ne me convient plus? Et du coup, on se dit, est-ce que je reste? Et est-ce que je serre les fesses et que je ne veux pas faire mon ingrate? Mais du coup, la vie quand même, elle est courte et j'ai peur de le regretter si je reste dans cette situation qui est parfaite sur le papier, mais qui ne me convient plus. Et le deuxième type de crise de la trentaine, c'est la phase locked out, où on se dit justement, tous mes amis ont tout ça, pourquoi moi je n'y arrive pas? Pourquoi j'arrive pas à rencontrer de mecs bien? Pourquoi j'arrive pas à trouver une carrière qui a du sens pour moi? Pourquoi moi je suis encore chez mes parents et j'ai pas du tout les finances pour faire un prêt? Et le problème, c'est pas d'avoir tout ça, parce que c'est ok de pas avoir de mecs, c'est ok de vouloir changer de carrière, de repartir à zéro. Le problème, c'est qu'on nous dit que pour être un trentenaire accompli, pour être heureuse, il faudrait avoir tout ça. Et c'est là qu'on se dit, mais il y a un problème avec moi, je suis cassée, je suis une bonne à rien, il y a un problème, pourquoi est-ce que moi je n'arrive pas à avoir tout ça? Et c'est à ce moment-là vraiment qu'on est en crise.
C'est assez connu au Chili, c'est assez important quand même.
David, 30 ans, est d'origine chilienne. Et lui, le locked-out, il connaît bien.
Parce que, comme j'avais dit, on arrive à la vingtaine et on commence à se poser pas mal de questions par rapport à la vie, par rapport à comment on va faire plus tard. Où est-ce qu'on va travailler, comment on va gagner sa vie, quoi. Et du coup, on commence à parler à partir de la vingtaine, à partir des 20, 21 ans à peu près, entre les camarades de classe, à la fac, même avec certains profs, on leur demande des conseils et tout. Mais arrivé par exemple à 25 ans, 26 ans, là on commence à faire pas mal des comparaisons. Donc on se compare avec celui de côté qui a peut-être une meilleure situation financière, qui a peut-être une famille, on dirait une famille nucléaire peut-être, et qui du coup a eu d'autres privilèges, a eu d'autres expériences en vie et tout. Et on commence à se dire comment je vais faire, sachant que les autres, peut-être ils ont une meilleure qualité de vie et moi je galère encore à trouver ce que je veux faire. Et ça amène quand même à la dépression. Il y a pas mal des jeunes entre 20 et 25 ans qui font des dépressions à cause de l'âge, à cause de vieillir et ne pas trouver une solution pour continuer à vivre. Et c'est surtout cette comparaison ce qui rend un peu compliqué le fait de trouver des solutions. Parce que on n'arrive pas trop à comprendre que tout le monde est complètement différent. Personne n'a les mêmes opportunités, mais après, il faut essayer de les chercher.
Au-delà de tous ces sentiments de locked-in ou de locked-out, il y a aussi la peur de vieillir tout simplement. Et ça, j'en ai parlé avec Jordan.
Il y a des trucs qui me font chier. Ça me fait chier d'imaginer qu'on va mourir. Ben, clairement, ça me fait chier d'imaginer qu'il puisse y avoir des maladies et des choses comme ça. C'est des angoisses, hein, j'en ai. Et puis, c'est juste que je les gère. J'en ai des, elles sont fortes, hein, je dis pas qu'elles sont pas fortes. Mais je les gère au quotidien. J'y réfléchis. Des fois, je veux pas du tout y réfléchir. Ça me fait flipper. Moi, j'ai vu aussi, avec le passé médical, j'ai vu ce qui pouvait arriver à 40 ans, 50 ans, les gens qui sont pas préservés. Puis on a des amis de la famille qui vieillissent d'une manière différente. Il y a des gens qui vieillissent super bien et voilà, il y en a qui ont plus de difficultés parce qu'ils ont pas balayé devant leur porte pendant des années. C'est compliqué parce que, puis en fait, il y a quand même des choses à faire. Quand je vois les gens qui vieillissent, ça c'est une idée un peu fixe. La chose la plus importante, c'est de continuer à avoir des liens. Parce qu'en vieillissant, t'en perds, les amis, la famille, en fait, il faut continuer à les tisser parce que c'est ça qui fait ton socle de ta vie quotidienne. Et quand tu vieilliras, vraiment plus vieux et à la retraite, c'est ça. C'est continuer à avoir des activités et du lien avec des gens.
Pour d'autres, comme Rose, il y a aussi une part de nostalgie.
Moi, je suis hyper nostalgique. C'est le côté d'avoir perdu des moments que je retrouverai jamais. Du coup, notamment l'adolescence et tout, le moment où t'es genre hyper libre, que tu peux. Et je trouve que c'est un peu tout le temps comme ça. Donc, t'es au lycée, tu te rends pas compte. Et puis après, tu te rends compte qu'en fait, c'était trop bien les années lycée quand t'arrives à la fac. T'es à la fac, tu commences un boulot, tu te rends compte qu'en fait, la fac, c'était trop bien les jeudis soirs où tu sortais et tout. Donc, c'est le côté vraiment perdre des choses petit à petit. Et du coup, t'arrives à un tournant où tout le monde le sait, bah, tu te fais moins d'amis déjà quand t'es dans le monde actif. T'as moins ce côté-là où du coup, t'es hyper insouciant. Tu sors tout le temps, les lendemains de soirée ils font beaucoup plus mal qu'avant, donc tu sors moins. Enfin, moi c'est vraiment tout ce côté là de perdre un peu l'insouciance de la jeunesse et d'arriver dans un truc où j'ai plus forcément le choix et je dois avoir des responsabilités, etc. Enfin ouais, c'est de perdre des choses un peu.
Et d'ailleurs ça je ne connaissais pas, mais c'est ultra générationnel et ça porte un nom, le FOMO, Fear of Missing Out. Si on traduit, ça donne la peur de rater quelque chose. Et quand on y pense, finalement ça colle plutôt bien avec le podcast. Bon, revenons-en à nos moutons. 30 ans, on l'a compris, c'est un âge pivot, au même titre que la quarantaine ou que la cinquantaine, mais ça arrive juste un petit peu plus tôt. On laisse la vingtaine derrière nous, on se projette, on tourne une nouvelle page.
Et au-delà d'une nouvelle page, c'est carrément un nouveau tome, quoi. Et oui, je pense que déjà d'avoir accepté le fait que j'avais 30 ans passé, ça va m'aider. À commencer ce nouveau livre. Pour autant, est-ce que je suis vraiment prête ? Je sais pas, parce que c'est un âge qui est fait de plein d'aventures encore. Voilà, je vais pas mentir, la trentaine, c'est aussi le moment où on se pose des questions par rapport à une potentielle maternité. En tant que femme, c'est une question que je me pose, surtout quand on sait que... À partir de 35 ans, c'est soi-disant plus difficile d'avoir des enfants, que on peut plus congeler ses ovocytes après 35 ans. Enfin voilà, je commence à devoir me poser des questions que je me posais pas du tout avant par rapport à ça. Et je sais que bah, peut-être que c'est une aventure qui va arriver plus vite que prévu. Et ouais, non, je reste quand même très intimidée face à cette nouvelle époque de ma vie qui s'ouvre, mais confiante parce que finalement j'ai dans mes bagages toutes les leçons que j'ai pu retenir des âges passés, quoi.
Toutes ces questions dont parle Ambre, on se les posera aussi dans l'épisode 2 de cette série de podcasts. On évoquera l'horloge biologique, mais on parlera aussi des ponts générationnels, ou plutôt des fossés. Parce que oui, finalement, notre génération, communément appelée les millennials, on est un peu perdu entre deux époques. La gène X, celle de nos parents, et la gène Z, celle de nos frères et sœurs, par exemple. Et parfois, comme David, je me fais un peu cette réflexion.
Et comment tu peux avoir 20 ans si moi j'ai 20 ans ?
À 16 ans, je voulais juste avoir 17. 17 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête.
Seulement 30 ans est une série de podcasts réalisée par Alexis Le Corollaire et produite par Radio Campus Besançon. Cet épisode est à retrouver sur campusbesançon.fr.
Ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête.